La Pleine Image a récemment eu la chance d'intégrer à son écosystème 5 nouvelles formations majoritairement liées au métier du numérique. 5 formations réunies au sein de Just Buy Ventures, fonds d'investissement créé par Octave Clabat, également fondateur d'OVH Cloud. C'est une tendance de fond. De plus en plus de formations alternatives se développent sur les métiers du numérique, un secteur particulièrement touché par la pénurie de compétences, en partie face au développement rapide des technologies. Mais qu'entend-on par formation alternative ? Une accessibilité différente que dans le système d'études supérieures traditionnel ? Une autre pédagogie ? Un autre modèle économique ? Et pourquoi ces formations ont-elles vu le jour et quelles sont leurs relations avec le système français d'enseignement supérieur ? L'alternative pourrait-il devenir la norme ? Bonjour, bienvenue dans cette 15e causerie de la Plaine. Je suis Blandine Lebourg, responsable veille et contenu de la Plaine Image. Et je suis très heureuse aujourd'hui de partager cette conversation avec Benjamin Delhem, co-founder and CEO d'Alberton School Hauts-de-France, pour mieux appréhender la raison d'être de ces formations et leur rapport à travers l'exemple d'Alberton. Bonjour Benjamin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à cette petite causerie. Comment vas-tu ?
Très bien Blandine, bonjour.
Alors, peut-être qu'on peut commencer par mieux se connaître. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours un peu et comment tu es arrivé et pourquoi finalement cofonder Alberton School Hauts-de-France ?
Oui, très bien. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, tout a commencé à la Pleine Image en 2012. Et je rencontre quelqu'un qui s'apprête à créer sa start-up, donc un entrepreneur de la région. Et c'est lui, en fait, qui me fait rentrer dans le monde tech de l'agglomération lilloise, entre Pleine Image, Aura Technologies, etc. Donc, j'ai la chance de baigner dans cet environnement depuis maintenant quelques années. Et c'était à l'occasion des 10 ans d'Aura Technologies, pour être précis, où un certain Julien Barbier fait une intervention et présente son école devant l'auditoire. J'assiste à cette présentation. Et là, ça fait tilt. C'est-à-dire que j'avais conscience qu'effectivement, il y avait un besoin gigantesque pour ce type d'école. Donc, ça fait le lien. J'en parle un peu autour de moi, notamment à un bon copain qui me donne son avis. Et on réfléchit ensemble. Et puis, au bout d'un moment, on se décide d'y aller à deux. Donc, on fait un petit voyage à deux à San Francisco. On découvre le siège de l'école, les fondateurs, les premiers recruteurs, parce que ce sont les GAFA qui sont les premiers recruteurs des étudiants en Alberton. Et on rentre en France 3 semaines avant le début du Covid. On ne le savait pas. Du coup, notre projet
personne ne le savait.
Exactement. Et notre projet, du coup, a très rapidement pivoté pour finalement ouvrir en janvier dernier, en janvier 21, mais du coup en mode full remote, c'est-à-dire 100% à distance.
Et là, donc, un challenge supplémentaire.
Un challenge supplémentaire sur le modèle, supplémentaire parce qu'en cette période de Covid, trouver du financement, trouver des partenaires, tout a été beaucoup plus compliqué. Mais la force de cette école, la force de ce projet a permis d'aboutir et d'être là aujourd'hui.
Et on est ravis d'ailleurs de vous accueillir au sein de la Pleine Image. Et du coup, Alberton, en quelques mots, rapidement, on reviendra, je pense, sur différentes spécificités au cours de la conversation. Mais globalement, comment tu peux nous présenter Alberton depuis ses débuts ? Du coup, tu l'as dit, hein, une école fondée à San Francisco, jusqu'à finalement son déploiement à travers le monde.
Comment définir Alberton ? Alberton, c'est un ovni dans le monde de l'éducation. Donc, c'est une école française, mais créée à San Francisco, donc c'est déjà une première particularité, mais tu vas voir qu'il y a énormément de particularités autour de ce projet. Donc école française, qui est là pour disrupter les écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'en fait, les fondateurs ont vu qu'il y avait une différence entre les entreprises qui s'adaptaient au monde actuel, qui est en pleine évolution avec Internet, les nouvelles technologies, et on l'a vu dans cette période de Covid où nos us et coutumes de fonctionnement, de travailler, même de vie, change énormément, mais le monde de l'éducation a beaucoup de mal à s'adapter.
Il s'adapte un petit peu plus lentement.
Exactement. Or, notre vitesse est en accélération et du coup, le fossé est en train de se creuser entre le monde de l'éducation et le besoin des entreprises. Et c'est suite à ce constat que les fondateurs ont créé cette école donc, à San Francisco, avec le soutien des principaux GAFA de la Silicon Valley.
C'était en quelle année, du coup, quand ils ont créé San Francisco ?
L'école a été créée en 2015. D'accord. Mais les premiers étudiants sont arrivés en janvier 2016.
D'accord.
Voilà. Et donc, le fait d'être basé à San Francisco, c'est également des atouts. C'est d'être dans le cœur de la tech mondiale. Et donc, on a la chance d'avoir parmi les personnes qui ont accompagné les fondateurs, Jeff Weiner, le CEO emblématique de LinkedIn, Jerry Yang, le fondateur de Yahoo. On a également des personnes qui sont extrêmement reconnues dans le monde de l'intelligence artificielle, comme Grégory Renard, quelqu'un qui vient de pas très loin d'ici, il est originaire de Moucron. Donc voilà, c'est une école qui a accès à un réseau clairement premium. On a accès également au gouverneur général de la NASA grâce à ce réseau. Et paradoxalement, c'est une école, à chaque fois qu'elle s'implante, que ce soit à Bogota, que ce soit à Beyrouth, que ce soit aujourd'hui donc à Lille, dès que cette école s'implante, elle s'implante dans un ancrage territorial très fort. C'est-à-dire que le but de l'école, c'est bien de former les jeunes du territoire pour le développement du territoire.
Et donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement comme formation au sein de l'école ?
C'est très simple, c'est une formation de développement informatique et que de développement informatique. Donc, comme je le disais, l'école est là pour disrupter les écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire que c'est une école qui se fait en 2 ans. Et pendant deux années, les étudiants vont étudier d'abord la première année les fondamentaux, ce qu'on appelle les fondamentaux. C'est un peu comme étudier le latin ou le grec pour bien parler français, c'est pareil dans l'informatique. Ensuite, ils vont pouvoir bénéficier d'un stage que nous allons proposer à chacun des étudiants. Et la deuxième année, ils vont choisir une spécialisation, et on en a quelques-unes à leur proposer, comme le machine learning, la réalité augmentée, réalité virtuelle, le développement web, tout ce qui est blockchain. On a plusieurs thématiques fortes de la tech, et ces spécialisations sont régulièrement mises à jour. Donc voilà le fonctionnement de l'école.
Et du coup, comment on entre dans cette école finalement ? À qui elle est destinée ? Et pour revenir un petit peu quand même avant à ce que tu viens de dire, quand on sort au bout de 2 ans, on sort avec un niveau ingénieur, alors, si j'entends bien.
Oui, alors c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'en France, on n'a bien entendu pas le droit au titre d'ingénieur, parce qu'il faut avoir fait un bac plus 5, mais comme je le disais, l'école est là pour disrupter, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans les cases, mais clairement sur le marché du travail et également au niveau salarial, les diplômés Holberton sont clairement un niveau ingénieur, et ça on le voit dans les 15 villes où Holberton est déjà présente, où tous les étudiants Holberton sont face aux ingénieurs qui sortent des meilleures écoles avoisinant la capitale.
Mais alors, on va revenir sur comment on entre dans l'école, mais c'est vrai que du coup ça me suscite une autre question. Comment on fait alors pour proposer un niveau qui peut être similaire en enlevant finalement quelques années de formation ? Ça doit être très très intense, j'imagine, pour
un étudiant. Oui, c'est la pédagogie qui était complètement transformée, et ils se sont notamment inspirés des méthodes Montessori. On a retiré tout ce qui est vraiment académique au sens classique du terme. Il n'y a pas d'amphi chez nous, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de prof. En fait, les étudiants vont être accompagnés par des communautés diverses et variées, donc bénéficier du caractère international, parce que toutes les écoles ont le même rythme, c'est-à-dire vont démarrer le même jour, vont avoir les mêmes peer learning, les mêmes événements en même temps. Ils vont aussi pouvoir bénéficier des liens très forts et très serrés qui lient avec le monde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'interventions d'entreprises et locales et d'entreprises internationales. Il y a des coachs, un coach technique qui est en fait un développeur senior, un ingénieur, et on a également des coachs humains qui sont là justement pour s'assurer que l'étudiant est en bon état d'apprendre, comprend bien la méthode Holberton. Donc voilà, il y a un caractère humain très fort. Les étudiants sont toujours baignés entre eux, ce qu'on appelle le peer learning, c'est-à-dire l'apprentissage par ses pairs, ce qui est fondamental chez nous. La notion d'apprendre à apprendre, parce qu'en fait, on va leur apprendre des technologies d'aujourd'hui et qui seront très rapidement obsolètes. Oui. Donc, ces étudiants vont devoir demain en entreprise, que ce soit la leur s'ils en créent une, ou demain en travaillant dans des grandes entreprises tech de la région ou mondiale, devoir se remettre en question constamment. Et c'est également ce que nous ont dit les recruteurs que nous avions rencontrés à San Francisco avec mon associé, que justement les étudiants Holberton étaient bien là pour faire du développement informatique, mais avaient des aptitudes et des capacités d'évolution extrêmement fortes vers des postes de management. C'est-à-dire que dans la pédagogie, il y a beaucoup de soft skills, par exemple, donc de communication, d'écoute, de présentation vis-à-vis de ses pairs, vis-à-vis des intervenants. Ça, c'est fondamental. Les notions de respect sont fondamentales dans l'école.
Donc on apprend pas seulement le développement informatique finalement, mais une certaine agilité, une capacité d'adaptation dans l'avenir professionnel, et aussi finalement des appétences pour travailler ensemble, en groupe, et développer.
Exactement, c'est exactement ça.
Et donc, du coup, comment on intègre Holberton aujourd'hui? À qui est destinée finalement cette formation?
Oui. Alors, la cible est très large, c'est-à-dire qu'Holberton, on va s'adresser idéalement des personnes qui ont un peu plus de 18 ans. Par contre, il n'y a pas de limite après. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'adapter à ces deux cibles qui sont les étudiants, qui sont là pour apprendre, mais également les personnes qui vont être en reconversion, que ce soit une reconversion d'études ou une reconversion professionnelle. Dans tous ces cas-là, Holberton est complètement adapté. En fait, le fait de travailler en mode projet en équipe, au plus on va avoir une équipe variée, avec des différences d'âge, des différences de niveau, des différences de connaissances, des différences de manière de penser, au plus la méthode Holberton va fonctionner. Donc on a intérêt à avoir une cible très large. Et pour répondre à ta question sur comment on rentre dans cette école, parce que c'est un point important, en fait, on a une admission qui est assez particulière, qui est une admission à l'aveugle. C'est-à-dire que les candidats vont postuler directement sur notre site internet et vont pouvoir rentrer, donc nom, prénom, adresse mail, et hop, c'est parti. On rentre dans un process, et c'est un process qui va nous emmener, qui va s'adapter aux candidats, et qui va l'amener sur différents niveaux à répondre à des tests, certains exercices, pour en faire démontrer les deux seuls critères d'admission, que sont la motivation et la capacité d'apprentissage.
Et donc pas forcément de diplôme préalable, comme le bac en France en l'occurrence?
Alors effectivement, quand je dis qu'on est là pour disrupter les écoles d'ingénieurs, on est vraiment là pour disrupter, c'est-à-dire qu'on va lever toutes les barrières. C'est vraiment l'objectif, d'où cette admission à l'aveugle. Les barrières sociales, les barrières académiques, donc effectivement, besoin d'aucun diplôme pour rentrer chez nous. Les barrières financières, on a également des solutions de financement qui permettent aux étudiants de ne pas payer un seul centime tant qu'ils n'ont pas de travail. Aux États-Unis, ils parlent beaucoup de critères ethniques. En France, il y a des lois qui empêchent ces sujets-là. Mais c'est pour dire que les minorités sont fortement représentées chez nous. Mondialement, chez Holberton, il y a 30% de femmes, par exemple. Alors que dans le monde de la tech, on parle plutôt de 5 à 7%. Donc voilà, on va intégrer beaucoup de... aux États-Unis, il y a beaucoup de latinos, il y a beaucoup d'afro-américains. En France, on vient de démarrer, mais sur notre première cohorte, 80% de nos étudiants viennent dans un cadre d'inclusion sociale. C'est-à-dire que soit ils étaient éloignés de l'emploi, ou soit ils venaient de milieux précaires et n'auraient pas pu se financer des études classiques de ce niveau-là.
Ce qui, j'imagine, répond aussi à certaines problématiques actuelles au niveau de l'inclusion et de la diversité qui semblent quand même essentielles demain dans le monde professionnel. J'imagine notamment, par exemple, dans le monde de l'IA, quoi. Il faut que la diversité soit représentée quand on développe les algorithmes pour qu'on puisse retrouver derrière cette inclusion. Donc du coup, c'est vrai que ça peut aussi répondre à ça. Donc pas de barrière ni de sexe, ni d'âge, 18 ans quand même, ni de milieu, quoi. Et donc avec un système de financement qui peut être inclusif aussi, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le modèle économique que vous avez mis en place? Parce que bien évidemment, la formation a un coût, mais c'est quelque chose qui est facilité pour la personne qui va entrer dans la formation.
Oui, alors bien sûr, pour assurer cette agilité, on se devait d'être une école privée. Ça, c'est le côté privé assure l'agilité. Du coup, qui dit privé dit effectivement qu'il y a un coût. Et ce coût, en fait, aux États-Unis et dans la majorité des pays, c'est financé par le modèle ISA, qui est un accord de partage de revenus où, en fait, les étudiants vont financer l'école avec un pourcentage de leurs futurs revenus. En France, malheureusement, ce n'est pas possible légalement. Du coup, on a dû s'adapter et on a la chance d'être accompagné par des partenaires bancaires, en l'occurrence le Crédit Agricole et la Caisse d'Épargne, qui vont permettre aux étudiants en fait, d'accéder à un prêt qui s'apparente à un prêt étudiant, avec un taux à 0,8, donc extrêmement faible. Et en fait, le critère de remboursement sera l'accès à l'emploi. Sachant qu'à côté de ça, Holberton garantit l'emploi à chacun de ses diplômés.
Et s'il n'y a pas d'emploi derrière, il n'y a pas de remboursement qui se déclenche en fait à la fin de la formation.
Exactement, mais comme je l'ai dit, vu qu'Holberton garantit l'emploi, c'est-à-dire qu'on a un pool de partenaires tellement important qui recherche ce niveau de formation, ce niveau d'études, on a tous les partenaires qu'il nous faut. Et dans le pire du pire des cas, grâce à notre partenaire actuel, on recrute nous-mêmes les étudiants qui n'auront pas pu être placés chez nos partenaires. Donc on va recruter 100% de nos étudiants.
C'est ce que j'allais dire. Donc on arrive sur un taux d'employabilité de 100% au sortir de la formation, ce qui est quand même assez exceptionnel dans le monde actuel. Et donc, du coup, justement, tu parles beaucoup des entreprises. Quelle a été la relation, quelle est la relation finalement avec les entreprises sur le terreau local, par exemple? Est-ce qu'il y a eu un travail d'identification de leurs besoins aussi en amont? Et aujourd'hui, quelles sont ces relations et comment ça peut se passer? Parce qu'on parlait aussi des stages. Je pense que le système est aussi un peu inversé chez Holberton. Vous fournissez, proposez les stages aux étudiants et ce n'est pas eux qui doivent faire la démarche de trouver leur stage.
Oui, le stage, c'est comme l'emploi, c'est bien l'école de proposer ça à ses étudiants et non pas à l'étudiant de les chercher. Et effectivement, on est très proche des entreprises et ça a commencé dès le début. Alors, pour donner quelques exemples locaux, très rapidement, on a eu la chance d'être accompagné par un grand retailer de la région, en l'occurrence le groupe ID Kids. On a également Octave Klaba qui nous accompagne. Une très belle entreprise tech de la région qui s'appelle Veid sur la cybersécurité. Donc on est très proche de ces entreprises qui ont parfaitement compris le niveau de formation dont avaient besoin les entreprises du territoire justement pour évoluer dans cette concurrence technologique de plus en plus importante.
Et du coup, c'est, bon, on l'a dit, hein, c'est le fait d'être une entreprise, une formation, une école privée qui vous permet d'avoir une certaine agilité. Mais alors, du coup, comment. Et c'est de là que sont nées ces écoles, parce qu'il y a Holberton, il y en a également d'autres. C'est vrai qu'on le disait en introduction, il y a de plus en plus de formations, en fait, qui vont. Des formations plutôt courtes et denses, qui vont proposer d'obtenir des compétences pour entrer dans le monde de la tech. C'est né quand à peu près finalement en même temps qu'Holberton, un peu avant, un peu après. Et est-ce que c'est l'unique raison pour laquelle toutes ces formations ont pu émerger, ce déficit de match, on va dire, entre la formation et le marché du travail?
Oui, je pense que ce fossé est malheureusement en train de grandir entre l'éducation classique, alors que ce soit en France ou dans d'autres pays, aux États-Unis c'est le cas également, et donc il y a ce besoin d'avoir des entreprises agiles et donc qui viennent du privé, d'initiatives individuelles et privées, de plus en plus de ce qu'on appelle des bootcamps qui sont là plutôt pour apporter une formation courte et lutter contre la fracture du digital. Mais par contre, jusqu'à présent, il n'y avait pas grand-chose pour venir compenser le côté inaccessible des écoles d'ingénieurs, notamment pour les populations défavorisées, par exemple. Et donc, Holberton, au même titre que l'école 42, a choisi ce modèle-là. Donc, on est vraiment là pour répondre à ce besoin d'ouverture du marché des ingénieurs, notamment en informatique.
Et du coup, on en parlait, c'est quoi l'intérêt en fait? Du coup, on l'a rapidement abordé, mais je veux bien qu'on revienne sur cette question de diversité, d'inclusion, donc dans les formations, dans les écoles, pour que demain, elles puissent être plus finalement ancrées dans le monde professionnel, parce qu'effectivement, on peut parler de l'entreprise et de son devoir d'inclusion et de diversité, mais si elle ne trouve pas les compétences dont elle a besoin, elle ne peut pas le faire. Qu'est-ce que ça apporte finalement au monde de l'entreprise, aujourd'hui et demain, d'avoir des collaborateurs ici de tout horizon possible, peu importe que ce soit des questions finalement d'origine, de sexe, d'âge, que tu as une vision sur ce sujet-là?
Oui, alors je suis français et fier de l'être, pro-français, mais pour autant, comme sur beaucoup de sujets, on voit que les États-Unis sont souvent en avance. Et sur cet aspect-là également, alors en Californie notamment, berceau des plus grosses entreprises technologiques de la planète, ils ont parfaitement compris l'intérêt d'une grande immigration, l'intérêt d'intégrer des profils extrêmement variés, donc d'une grande diversité, pour une raison très simple, c'est que si j'ai une équipe avec des profils différents et donc complémentaires, je vais rapidement aller plus loin. Donc la notion de vitesse et de performance est directement liée à une population diversifiée. Ça commence à arriver en France. Holberton est clairement né avec cet ADN-là. Le modèle Holberton fonctionne dans le cadre d'une diversité. Si on n'a que des profils identiques, le modèle fonctionnera moins bien. C'est évident. Et en entreprise, c'est pareil. L'entreprise a besoin d'agilité. On n'a plus de concurrents qui sont dans le village ou la région d'à côté. Maintenant, nos concurrents sont globaux. Ils viennent de Shanghai, ils viennent d'Amérique, ils viennent de l'autre bout de l'Afrique ou de l'Europe. Donc, il y a un besoin d'agilité et d'adaptation extrêmement forte. Et c'est grâce aux hommes et aux femmes qui composent l'entreprise, avec leurs origines diverses et variées, soit en termes d'âge, en termes de sexe, en termes d'origine ethnique, en termes d'histoire de vie. Et ça, c'est fondamental.
Mais du coup, pour revenir sur la création de ces écoles, en fait, elles sont très liées au secteur de la tech, me semble-t-il. Et est-ce qu'on peut parler d'une sorte de faillite de l'enseignement plutôt traditionnel, universitaire, hein, puisque bon, des écoles privées, il y en avait déjà. En plus, finalement, il y en a toujours eu. On a toujours fonctionné ce système-là. Donc, est-ce que c'est possible aujourd'hui aussi pour l'éducation nationale, ou en tout cas pour l'État, de proposer, de s'adapter, ou c'était tellement difficile que finalement, on peut plutôt se voir avec un partenariat entre des formations privées et des formations plus d'enseignement supérieur plus classique qui ont du mal à se mouvoir parce qu'elles sont, j'imagine, plus lourdes, le système est plus lourd. Comment tu vois un petit peu tout ça évoluer demain?
Alors, comme sur les autres sujets sociétaux, on est dans un virage. Dans le monde de l'éducation, on est peut-être juste avant le virage. Donc, je n'irai pas jusqu'au terme faillite, mais remise en question, ça c'est évident. Jusqu'à présent, l'éducation nationale classique, c'était la majorité du sujet de l'éducation, notamment en France. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, avec l'arrivée massive de ces initiatives privées, telles qu'Holberton, la place des écoles privées dans le monde de l'éducation, que ce soit l'apprentissage initial ou la formation continue, ce poids ne fera que grossir. Et donc, ce partenariat entre public et privé dans le monde de l'éducation est indispensable et clairement en train de se mettre en place. Alors, on est bien entendu en discussion avec les organismes de l'éducation au niveau national, on discute avec le Pôle emploi, avec la région, on discute avec le rectorat, et tout ça c'est vraiment en train de se mettre en place. Il y a effectivement un train de retard qu'on doit effectivement corriger, et notamment accélérer cette correction parce que les autres pays n'ont pas attendu. Et si on veut que les futurs travailleurs français soient de bon niveau pour concurrencer les travailleurs asiatiques ou américains, voilà, il est urgent de se dépêcher sur ce sujet-là.
Et ça commence d'ailleurs peut-être effectivement par repenser à les formations. Mais c'est quand même un changement de paradigme hein, sur le marché français, puisqu'on est quand même un État providence de base, quoi, en fait, où il y a une grande présence de l'État sur tous ces sujets. Et donc, finalement, c'est un petit peu parfois délicat, je pense, pour certaines personnes, de voir le privé prendre ce relais quand même de plus en plus, et pas que sur, finalement, la question de la formation. Mais du coup, toi, tu imagines quelque chose comme vraiment un partenariat, quoi, en fait, et pas une suspicion, même si aujourd'hui, les entreprises sont aussi très moteurs, tu l'as dit. C'est aussi pour elles que ces formations sont nées, parce qu'il y avait une adéquation. Mais donc, du coup, de toute façon, tu imagines bien que l'État sera toujours présent à pouvoir accompagner l'évolution des formations et de l'enseignement supérieur.
Oui, l'histoire de la France est une histoire particulière et c'est un pays qui est fort sur ces valeurs-là. Donc l'État sera toujours présent dans le monde de l'éducation. J'aurais beaucoup de mal à imaginer quelque chose de différent. Pour autant, il faut laisser la place aux initiatives privées de s'installer, de s'épanouir, de se développer, mais toujours en lien, bien sûr, avec l'État. Et on le voit déjà aujourd'hui, il y a des ponts, il y a beaucoup de financement public pour financer les initiatives privées. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. C'est pas simple, c'est compliqué, surtout pour des acteurs nouveaux et extrêmement différents, tels qu'Holberton, mais c'est en train de se mettre en place et je suis plutôt très confiant pour l'avenir. J'étais encore hier en discussion avec le Pôle emploi Île-de-France, justement pour assurer le développement de l'école, pouvoir bénéficier de ces aides qui sont normalement réservées à l'éducation classique, et donc que ça puisse bénéficier également à l'éducation innovante. Bon.
Tu voulais ajouter quelque chose?
Non, c'est tout.
Et donc, du coup, Holberton, donc on l'a compris, donc une formation quand même très ancrée sur l'international, ce qui peut avoir aussi ses avantages pour finalement les étudiants, on les appelle des étudiants toujours.
Oui, tout à fait.
Des étudiants, donc qui peuvent ressortir avec un haut niveau, hein, tout de même, avec un emploi surtout, finalement, à la fin de la formation, ouvert à tout le monde. Du moment on a 18 ans vraiment une activité forte, donc c'est vrai que ça semble quand même un modèle quand même très intéressant, effectivement très complémentaire de ce qu'il peut y avoir actuellement. Et du coup, prochaine promo, et finalement les promos, elles sont, on parle de promo aussi,
on parle de cohorte, de cohorte, mais c'est voilà. Vraiment comme une promo effectivement.
Et des cohortes de combien d'étudiants en général, et c'est quoi vos prochaines dates finalement de rentrée?
Alors, au niveau des dates, la prochaine rentrée, c'est le 6 septembre. Nous avons trois rentrées chaque année, septembre, janvier, juin. Donc le 6 septembre, on va ouvrir dans 3 écoles, à Lille, à Laval et à Paris. Et d'autres ouvertures suivront en janvier prochain. Au niveau de la taille des cohortes, alors c'est pareil, on n'est pas une école classique, donc on est complètement agile à ce niveau-là. On démarre, pour l'instant, nous avons une trentaine d'étudiants. Et en fait, on va s'adapter en fonction de la taille de la cohorte. Et là, il y aura juste du recrutement à faire en termes d'animation et de coaching. Donc il n'y a pas forcément de limite. Ce n'est pas non plus une course à la quantité, parce que comme je l'ai dit, c'est une école de haut niveau. On est là pour former les pépites de la tech de demain, donc des personnes qui seront extrêmement bien formées. L'idée, ce n'est pas d'en former un maximum, mais au contraire, de les former au mieux. Donc, c'est vraiment ça le sujet.
Très bien. Et du coup, bon, une implantation quand même récente à la Pleine Image. Et donc, c'est vrai que quel est l'avantage peut-être de rejoindre un écosystème où on va déjà trouver des entreprises, d'autres formations, aussi un centre de recherche. Est-ce qu'il y avait un intérêt prononcé pour justement s'ancrer davantage sur un territoire et un écosystème? Et qu'est-ce que Holberton peut apporter à l'écosystème et retirer de l'écosystème?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, les étudiants vivent et sont accompagnés, sont perpétuellement en connexion avec différentes communautés. La première communauté, ce sera leur père, les autres étudiants, les communautés de coach, les communautés d'intervenants, les communautés d'entreprise. Et là, j'en viens, effectivement, Holberton n'est pas venu seul à la Pleine Image. On vient dans le cadre d'une communauté complète qui est en train de se mettre en place à la Pleine Image, une communauté de formation, d'école. Alors nous, on est soutenu par Jess Bay, porté par Octave Klaba, fondateur d'une grande licorne française, OVH pour ne pas la citer, et d'autres initiatives complémentaires telles que Simplon, telles que Les Déterminés, telles que Z, etc. sont là pour accompagner ça. Il y a également des projets d'envergure différente tels que Artifix qui est en train de s'installer à la Pleine Image.
Oui, qui est aussi une école privée effectivement, mais sur un système plus classique, on va dire, de formation à Bac plus 3, Bac plus 5, quoi, en fait.
Tout à fait. Mais c'est pour dire qu'il y a vraiment ce terreau éducatif qui est en train de se mettre en place à la Pleine Image. Et donc, il y a toute la place pour que Holberton School puisse s'installer à la Pleine Image pour son campus lillois.
Et puis, qui sera certainement très bénéfique pour le territoire aussi par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur des questions d'inclusion et de diversité. Effectivement, oui, c'est quand même un sujet essentiel.
C'est un autre point de la Pleine Image, c'est son emplacement. La Pleine Image est sur la frontière entre Roubaix et Tourcoing. On est très proche de la ville de Roubaix parce que nos principaux partenaires, je citais tout à l'heure ID Kids ou OVH, sont des entreprises roubaisiennes, fortement implantées à Roubaix. La ville de Roubaix a besoin de ce type d'initiative. Et au même titre, les entreprises que je viens de citer et nos autres partenaires ont besoin justement de personnes issues de la diversité. Donc le lien est évident. Et donc l'emplacement géographique de Pleine Image a également beaucoup de sens par rapport au projet Holberton School.
Et oui, et ça a beaucoup de sens aussi pour le projet de toute façon du territoire et de la Pleine Image, effectivement.
Je profite juste une petite parenthèse pour remercier la mairie de Roubaix qui nous a beaucoup accompagné sur le sujet. Guillaume Delbar et ses équipes qui ont soutenu le projet depuis le tout début et encore aujourd'hui ont permis justement qu'on puisse s'installer avec Jess Bay bien sûr, mais sur les Pleine Image. Donc merci à eux.
Et donc c'est une belle histoire qui démarre et qui va certainement se poursuivre dans les prochaines années pour aussi accompagner tout le développement des entreprises et du territoire ici. Donc du coup, vous pouvez retrouver tous les liens qui vont bien vers Holberton et tout ce dont on a parlé finalement dans le texte qui accompagne ce podcast. Benjamin, est-ce que tu souhaites ajouter un mot de la fin ou autre chose avant que nous concluions?
Non, je suis hyper, hyper fier d'être dans ce projet qui me nourrit tous les matins parce qu'on est vraiment là pour écrire un bout de l'histoire. Alors c'est peut-être un peu ambitieux, mais on a cette ambition chez Holberton. Et donc on est pressé d'ouvrir en septembre, d'accueillir des étudiants de Roubaix, de Tourcoing, de l'agglomération lilloise et des Hauts-de-France pour venir se former et surtout demain pouvoir accompagner les belles entreprises du territoire à se développer. Donc il y a du sens social, il y a du sens de l'innovation. C'est un projet qui est magnifique. Et on est superbement accompagné par les équipes de la Pleine Image, Emmanuel en premier, bien sûr. Donc c'est une belle page qui est en train de se tourner pour un futur prometteur. Donc on est super contents.
Eh ben, merci beaucoup et puis félicitations effectivement pour tout, pour toute cette belle histoire encore à écrire, quoi.
Merci Blandine.